Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
La question, savoir si c'est les malades, ça sert à faire de la recherche, ou s'il faut les soigner. Moi, j'ai dit qu'il fallait les soigner, que c'était plus le temps de la recherche, c'était le temps de les soigner. Moi, j'essaie de faire les choses selon ma conscience.
Le professeur Raoult, accusé d'avoir administré de la chloroquine sans le consentement de ses patients, il répond ce soir sur Europe 1 aux affirmations du Canard enchaîné.
Et cela au moment même où la revue The Lancet prend ses distances avec l'étude qu'elle a elle-même publiée sur ce traitement. Les détails, hein, parce qu'il faut essayer d'y voir clair, c'est dans quelques secondes.
Le préfet de police de Paris saisit la justice après la manifestation interdite organisée hier soir par les proches d'Adama Traoré. Le gouvernement appelle à l'apaisement et promet d'être intraitable contre le racisme.
Je suis sur ce sujet intransigeant. S'il y a faute, elle doit être sanctionnée et elles sont sanctionnées.
Christophe Castaner tout à l'heure, l'affaire Traoré, elle tourne à la bataille d'experts.
Dans ce journal également, retour dans l'un des berceaux de l'épidémie en Europe, Milan.
Ces derniers jours, les Milanais ont commencé à sortir. Peu à peu, la confiance revient.
Et l'Italie a rouvert ses frontières. Et puis la cohabitation, de plus en plus compliquée en ville. Vélo, trottinette, voiture, attention, la mortalité des piétons est en hausse. La Bourse de Paris poursuit sa remontée et passe les 5000 points, plus 3,3%.
Bonsoir Anissa, le ciel avec vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et bien pour demain, le programme, il n'est pas réjouissant. Beaucoup d'orages, des orages violents sur une grande partie de la France, des pluies très soutenues dans le sud-est et des températures en nette baisse. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Il continue de déchaîner les passions. Le professeur Raoult a été signalé à la justice par l'un de ses confrères. C'est ce qu'affirme le Canard enchaîné. Il aurait administré le traitement qu'il défend, l'hydroxychloroquine, à ses patients, mais sans leur consentement. L'ordre des médecins est saisi et ce soir, l'infectiologue marseillais répond à votre micro, Nathalie Chevance.
Oui, c'était dans son bureau à l'IHU tout à l'heure, en petit comité, et le professeur Raoult ne s'est pas dérobé à la question sur les accusations dont il fait l'objet. Alors c'est vrai qu'un signalement est parvenu le 3 avril à la procureure de Marseille, accusation d'un professionnel de santé dont on ne connaît pas l'identité, qui affirme que deux études cliniques publiées par l'IHU en pleine épidémie n'ont pas respecté le cadre légal. En clair, de l'hydroxychloroquine aurait été prescrite à des malades du Covid sans qu'ils le sachent, en tout cas sans avoir recueilli un consentement libre et éclairé, ce qui peut constituer une infraction pénale. Alors le professeur Raoult a-t-il quelque chose à se reprocher? Voici sa réponse.
On verra bien, il faut laisser le faire au temps de la justice. Après, ça, la question, savoir si c'est les malades, ça sert à faire de la recherche, ou s'il faut les soigner. Moi, j'ai dit qu'il fallait les soigner, que c'était plus le temps de la recherche, c'était le temps de les soigner.
Mais est-ce qu'il savait qu'il prenait de l'hydroxychloroquine?
Ah, monsieur.
Vous êtes serein?
Ah oui, bien bah, nature. Écoutez, moi, j'essaie de faire les choses selon ma conscience. Ouais, je m'en fiche, ça va. Moi, j'ai tous les portraits de ma famille ici, vous savez, c'est eux qui me regardent avec l'air mauvais si je fais une bêtise, si vous voulez. Et donc, c'est plus ça qui m'intéresse que l'air du temps, je m'en fiche.
Alors, le parquet de Marseille s'est tout de même rapproché de l'Agence nationale de sécurité du médicament pour évaluer les faits, mais à ce stade, aucune décision n'a été prise. Enquête préliminaire ou classement sans suite.
Voilà pour cet entretien du professeur Raoult avec Nathalie Chevance, notre correspondante à Marseille.
Et ce nouvel élément, il intervient à un moment où la bataille continue autour de ce traitement, l'hydroxychloroquine, mise en cause notamment par une étude publiée par The Lancet, la revue qui est à présent rétropédale, Virginie Salmen.
Oui, la direction du Lancet a émis une mise en garde vis-à-vis de l'étude publiée dans ses colonnes le 22 mai qui suggérait une surmortalité des patients traités avec cette molécule, associée ou non à un antibiotique, et une recrudescence d'accidents cardiaques. Ça n'est pas encore un retrait de l'article, mais beaucoup de scientifiques le réclament. Il y a deux critiques essentielles. D'abord, la méthode de l'étude. Ça n'est pas la plus solide, on ne part pas de patients tirés au sort à qui on donne un médicament pour vérifier son efficacité. Là, c'est une société américaine spécialisée dans le traitement des données, Surgisphere, qui dit avoir aspiré les dossiers médicaux de 96 000 patients dans environ 700 hôpitaux dans le monde, donc des données brutes, plus difficiles à interpréter. Et puis des erreurs, notamment de codage d'hôpitaux, ont été décelées. Par exemple, les 73 morts d'un pays ont été attribués à l'Australie, où il n'y a eu que 67 morts. L'auteur principal de l'étude, le professeur Mandeep Mehra, de l'école de médecine de l'université de Harvard aux États-Unis, s'est retourné vers la société de traitement de données Surgisphere pour lui demander des explications de façon urgente.
Voilà, des incertitudes. Et pourtant, on se souvient que l'OMS et la France s'étaient basés sur cette étude précisément pour suspendre les essais sur ce traitement. Est-ce que cela va changer leur position ?
Eh bien, pas pour l'instant. En France, les autorités sanitaires ne font marche arrière ni sur la prescription de l'hydroxychloroquine à l'hôpital, ni sur la suspension des essais cliniques. Et puis à ce stade, pas d'annonce non plus du côté de l'OMS.
Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a lancé les travaux de sa commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise. Le Sénat lancera la sienne à la fin du mois. Un premier rapport a été publié par des députés. Il pointe les faiblesses de la France, insuffisance des stocks de masques, notamment gestion de l'approvisionnement et suivi insuffisant des EHPAD.
Il est 18h05 sur Europe 1. La suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Et l'autre grand dossier du jour, ce sont les suites de cette manifestation hier soir organisée par les proches d'Adama Traoré, ce jeune homme mort en 2016 après son arrestation.
Sa famille est convaincue que les gendarmes en sont responsables. On verra dans un instant ce que disent les différentes expertises. Hier soir, 20 000 personnes ont participé à ce rassemblement qui était interdit. 18 interpellations après les heures qui ont suivi. Et ce soir, le préfet de police saisit la justice pour demander à poursuivre les organisateurs.
Et une affaire qui prend une tournure politique. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a été forcé de répondre aux accusations de racisme portées contre les policiers.
Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque accès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant, parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui fauteraient, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. C'est garantir la défense de cette police républicaine qui, au quotidien, combat le racisme, combat l'antisémitisme et s'engage au quotidien pour défendre l'honneur de la République. S'il y a faute, elle doit être sanctionnée et elles sont sanctionnées.
Les promesses de Christophe Castaner tout à l'heure au Sénat. Il n'y a pas de violence d'État, martèle la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Beaucoup de manifestants, eux, faisaient bien le parallèle hier avec ce qui se passe aux États-Unis. Écoutez cet éducateur en banlieue parisienne.
Quand j'entends dire que les violences policières en France, ça n'existe pas, ou que le racisme dans la police, ça n'existe pas, j'ai juste envie de dire à nos représentants, s'il vous plaît, parce que nous, on le vit, on le subit, on en souffre, on en pâtit, on vous demande juste de nous considérer. Pas mieux que d'autres, mais pas moins bien que d'autres. C'est plus facile de parler des États-Unis que de parler de ce qui se passe en France. Mais malheureusement, ce qui se passe aux États-Unis, nous aussi, on y a le droit ici. La brutalité qu'il y a là-bas, on y a le droit aussi.
Boubacar, un éducateur de Gennevilliers, il répondait à Théo Manval.
On va y revenir longuement avec les grandes voix à 18h30. Hein, mais arrêtons-nous un instant sur cette affaire Adama Traoré, Sébastien, qui a déclenché la manifestation. Depuis 4 ans maintenant, de nombreuses expertises ont été menées sur les causes de sa mort.
Hein. Plusieurs ont écarté la responsabilité des gendarmes. Mais la famille a rendu publique hier soir une contre-expertise qui les met en cause, Guillaume Bié.
Oui, ces conclusions sont catégoriques et sans nuance. Pour le professeur de médecine qui signe cette contre-expertise, Adama Traoré est mort à cause du plaquage ventral, sous-entendu exercé par les gendarmes qui l'ont arrêté. Aucune autre cause du décès n'est identifiée, écrit le médecin. Alors c'est la deuxième fois que la famille d'Adama Traoré fait réaliser une contre-expertise qui va à chaque fois dans le même sens, celle défendue par ses proches, et qui va à l'encontre des autres expertises. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 4 ans dans ce dossier, il y a déjà eu 2 autopsies et 4 rapports d'experts désignés par la justice, 11 médecins différents, légistes et spécialistes. Aucun d'entre eux n'a jamais clairement établi qu'Adama Traoré était assurément mort, écrasé sous le poids des gendarmes, comme sa famille en est convaincue. Le seul point sur lequel tous les médecins sont d'accord, y compris ceux désignés par ses proches, c'est que le jeune homme a succombé à une asphyxie. Mais due à quoi? D'après la dizaine d'experts, ce serait à cause de multiples raisons médicales, alors que le médecin mandaté par la famille balaye les hypothèses de tous ses confrères.
Les précisions de Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. Aux États-Unis, à présent, les manifestations ont continué. Hier soir, malgré les couvre-feux à New York et Los Angeles notamment, mais avec moins de violence. Ce soir, le ministre américain de la Défense se dit opposé au déploiement de l'armée. C'est pourtant exactement ce que réclamait Donald Trump. Trump qui dément dans une interview s'être réfugié dans le bunker de la Maison-Blanche vendredi. C'était juste une visite d'inspection, dit-il.
Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre édition de 18h, notre tour d'Europe du déconfinement débute ce soir. Jean-Sébastien Soldaini est à Milan pour Europe 1, là où tout a commencé.
Et puis attention, la mortalité des piétons est en hausse dans les villes.
18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
C'est bien là que l'épidémie a commencé en Europe. Hein. L'Italie, 33 000 morts, l'un des pays les plus endeuillés, a rouvert ses frontières aujourd'hui même.
Nouveau symbole de ce déconfinement qui se poursuit à travers l'Europe. Les Italiens sont aussi à nouveau autorisés à se déplacer entre les différentes régions. La vie reprend, y compris à Milan, qui, on se souvient, s'était confiné bien avant nous. C'est là que vous vous trouvez, Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, sur la Piazza del Duomo, devant la cathédrale de Milan et sa façade de pierre aux découpes millimétrées. En revanche, pas besoin de précision pour se déplacer sur le parvis. Faible affluence, les glaciers et les vendeurs de souvenirs sont assis. Et Francesca tient un petit kiosque au pied de la cathédrale, sans client.
Ces derniers jours, les Milanais ont commencé à sortir. C'est pour prendre un peu d'air et peu à peu, la confiance revient, même si certains ont peur. Il fallait qu'on sorte de cet enfermement. Mais c'est difficile de voir cette place comme ça. Normalement, il y a cette affluence à 8h du matin, pas en fin d'après-midi. Je ne l'ai jamais vu comme ça à cette heure-ci.
Ce qui marque ici, ce sont les mesures sanitaires très respectées, au contraire de Vintimille où je me trouvais hier. On sent que la ville a été marquée par cette épidémie. Il faut aussi accepter certaines contraintes en entrant dans les établissements. Prise de température, feuille d'émargement pour remonter éventuellement jusqu'à vous en cas de contamination. La reprise se fait lentement dans cette ville, poumon économique du pays. Et c'est là tout l'enjeu de savoir si la Lombardie va vite retrouver son activité.
Jean-Sébastien Soldaini en direct de Milan ce soir et on vous retrouvera à travers l'Europe dans les jours qui viennent pour raconter ce déconfinement.
L'Autriche maintenant qui lèvera ses contrôles aux frontières demain, sauf avec l'Italie justement, et puis la Belgique ouvrira les siennes avec les pays européens. Rendez-vous pris le 15 juin.
L'ouverture au tourisme européen qui se dessine plus largement. L'Allemagne a prévu de lever ses mises en garde pour les voyages à cette même date du 15 juin.
Et on va conclure avec un chiffre qui nous appelle tous à la prudence. La mortalité des piétons en ville est en hausse.
Ce sont les chiffres 2019 de la sécurité routière qui l'indiquent et ce n'est pas sans lien avec notamment la multiplication des trottinettes, des vélos qui s'ajoutent aux scooters et aux voitures. Des moyens de transport justement pris d'assaut en cette période de déconfinement. Mathieu Bock, vous l'avez constaté à Paris, ça donne une cohabitation parfois compliquée et même dangereuse dans les rues et sur les trottoirs.
Oui, à ce carrefour de la rue de Crimée par exemple, vous avez 4 pistes cyclables, 5 trottoirs, 2 routes et 3 feux rouges pour réguler tout ça. Sous le soleil de cet après-midi, les cyclistes, les piétons, les trottinettes, les voitures et les scooters tentent de se frayer un passage. Sylvie et Anne-Marie habitent juste à côté. Ces deux retraitées se tiennent par le bras, elles ne se promènent plus seules désormais.
Moi, dans des endroits comme ça, je viens pas toute seule, hein, j'ai un compagnon.
C'est plus difficile de sortir, on a un peu plus peur aussi. Avant, il y avait moins de monde déjà, donc on risquait moins.
Beaucoup plus de cyclistes qu'avant, c'est le constat de Clara, qui se déplace à vélo depuis toujours.
C'est vrai que depuis le déconfinement, il y a des embouteillages de vélos. Hier, c'était un vrai embouteillage, quoi. J'ai attendu un feu pendant quelques secondes. Moi, j'ai tendance à être énervée après les gens qui prennent des vélos du genre Vélib, parce qu'ils ne regardent pas pour s'engager, et du coup, c'est hyper dangereux. Mais par contre, c'est vrai que la haine des voitures se fait un peu plus ressentir, même s'il y a moins de circulation dans Paris.
Mais Clara préfère en sourire. C'est une bonne chose, après tout, s'il y a plus de vélos à Paris, dit-elle.
Mathieu Bock pour Europe 1.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. On reste prudent évidemment à vélo, en trottinette et bien sûr en automobile. On se retrouve à 18h30 avec un nouveau journal.